l'histoire, actualité comme tous les vendredis dans la Fabrique de l'Histoire, actualité de la recherche sur l'histoire des femmes et du genre ce matin. Il y a une vingtaine d'années, la grande historienne de la France, qui est Nathalie Zemon-Davies, publiait en anglais un texte sur la place des chercheuses dans la revue d'histoire Les Annales, texte qui lui permettait de réfléchir plus largement à la place des femmes dans la recherche en histoire. Cet article, traduit récemment en français, est mis en discussion ce matin dans la Fabrique de l'Histoire, avec Nathalie Zemon-Davies soi-même, Clyde Plumosil, Anaïs Albert et Camille Lefebvre. Et puis, dans la deuxième partie de cette émission, Amélie Meffre, dans sa chronique mensuelle Un saut dans la loi, nous dira comment la décision récente sur le glyphosate puise ses racines dans une loi du début du XXe siècle sur l'arsenic. Enfin, comme tous les vendredis, nous vous proposons un nouvel épisode de notre rubrique C'était à la une, imaginée avec le site de presse de la Bibliothèque nationale de France, Retro News. Aujourd'hui, la cathédrale de Reims pendant la Première Guerre mondiale, un texte lu par Laurent Lederer.
Jusqu'à maintenant. Et nous sommes là, nous, témoins, utilisateurs, sœurs de la bibliothèque Marguerite Durand, représentants également de beaucoup de chercheurs et chercheuses en France et dans les pays étrangers, pour dire notre pleine solidarité et notre désir de trouver une solution qui convienne à tous. Voilà, merci.
C'était devant la bibliothèque Marguerite Durand, plus exactement devant la médiathèque Jean-Pierre Melville, dans le 13e arrondissement de Paris, qui abrite depuis déjà pas mal d'années cette bibliothèque Marguerite Durand, bibliothèque d'histoire des femmes et du genre à Paris, qui doit bientôt déménager. Et celle que vous entendiez, évidemment, c'est la voix de Michel Perrault, qui protestait donc contre ce déménagement qui devrait, d'une certaine façon, amputer une partie de cette bibliothèque, de ses possibilités de raconter l'histoire des femmes et du genre. Et puisque nous allons parler de cette question, d'histoire des femmes et du genre, je comptais ouvrir cette émission par cette prise de parole qui montre bien combien il est difficile dans la société française encore aujourd'hui de faire cette histoire des femmes et du genre, et combien souvent elle est empêchée par des moyens patrimoniaux ou des moyens techniques comme cette fermeture temporaire et ce déplacement de la bibliothèque Marguerite Durand à Paris. Alors nous sommes avec quatre historiennes. D'abord avec vous, Nathalie Zemon-Davies, bonjour.
Bonjour.
Je suis très heureux de que vous soyez à nouveau dans la Fabrique de l'Histoire.
Très content d'être avec vous.
Et avec trois jeunes historiennes, Clyde Plumosil, bonjour.
Bonjour.
Vous êtes chargé de recherche du Labex Écrire une histoire nouvelle de l'Europe avec Anaïs Albert, bonjour.
Bonjour.
Vous êtes maîtresse de conférence à Paris 7 et avec Camille Lefebvre, bonjour. Bonjour. Vous êtes chargé de recherche au CNRS, à l'IMAF et au comité de rédaction de la revue Les Annales. Et c'est à ce titre-là en particulier que vous êtes avec nous ici aujourd'hui. Alors il faut expliquer à nos auditeurs pourquoi cette réunion autour de Nathalie Zemon-Davies, Clyde Plumosil.
Cette réunion, elle est née d'une envie avec Anaïs Albert et Sylvain Ville, avec qui nous avons co-dirigé donc un numéro pour la revue Tracé intitulé « Déplacer les frontières du travail », de l'envie d'une réflexivité sur notre discipline, l'université, et de comprendre comment aussi, dans le cadre académique, des frontières de genre, de classe, d'âge, de race, etc., pouvaient jouer sur la définition du travail universitaire. Et c'est dans cette perspective que nous avons eu envie donc de redécouvrir l'article de Nathalie Zemon-Davies que nous avions lu dans le cadre de notre formation d'historienne et que nous avions envie de faire traduire grâce à Christelle Rabier qui est membre de la revue Tracé et qui nous a livré une superbe traduction du texte de Nathalie Zemon-Davies pour réouvrir le débat en quelque sorte sur le genre de la production scientifique.
Alors ce texte et Nathalie Zemon-Davies, est-ce que vous pouvez nous les présenter l'un et l'autre ou l'une et l'autre, Anaïs Albert?
Oui, alors bien sûr, Nathalie Zemon-Davis, c'est pour nous, chercheuse française en histoire, une très grande historienne des femmes et du genre. Et cet article particulièrement, donc Nathalie Zemon-Davis, elle est spécialiste d'histoire moderne et elle a beaucoup travaillé sur les femmes à l'époque moderne. Et cet article, il est particulièrement cité dans les manuels d'histoire du genre, comme un article qui a mis en lumière le fait que l'histoire au 19e siècle et dans la première moitié du 20e siècle était en fait une histoire au masculin. Donc c'est un lieu commun maintenant dans les manuels d'histoire du genre, mais Nathalie Zemon-Davis dans cet article montre comment en fait et le montre
c'était
précisément.
C'était un article pour la revue anglaise History Workshop Journal.
Voilà, qui est paru en 1992 dans cette revue et qui est un article qui en fait dévoile un petit peu cette histoire au masculin en montrant comment les grands historiens des annales qu'on connaît évidemment aujourd'hui, Marc Bloch, Lucien Febvre, Fernand Braudel, et dont on ne connaît que finalement s'appuyer en réalité sur un travail féminin invisibilisé.
Alors, comment en êtes-vous venu, c'était donc en 1992, Nathalie Zemon-Davis, à réfléchir à cette question de l'invisibilisation des femmes qui travaillaient, qui étaient pourtant diplômées, c'est ce que vous expliquez dans cet article, éminemment diplômées, qui travaillaient dans l'entourage et à l'intérieur de cette revue des annales, par des hommes qui, d'une certaine façon, ont tiré la couverture à eux et se sont appropriés leur travail, Nathalie Zemon-Davis?
Pour moi, la recherche des femmes historiennes était importante depuis des décennies. J'étais entourée par des professeurs hommes, et puis c'est Marc Bloch lui-même, son âge féodal, et c'est ton métier d'historien qui m'a attirée vers l'histoire. À travers tous ces décennies quand même, je me suis posé la question, mais n'est-ce pas qu'il y avait des femmes historiennes? Est-ce que j'avais des amis de mon âge, de ma génération? Il y a quelques années, même dans les années 70, j'ai cherché un peu les femmes historiennes du passé. J'ai écrit un article, gender et genre, ça ne traduit pas en français gender, parce que c'est le même mot, les femmes historiennes de l'époque, la fin du Moyen-Âge. Et puis j'ai trouvé des femmes très intéressantes, les noms un peu cachés. Et puis je me suis dit, vers la fin des années 90, je travaillais sur l'histoire des annales pendant l'occupation. Mais où sont les femmes? Où sont les femmes? Et puis, Peter Schroeder a trouvé quelque chose sur Lucy Varga. Moi, j'ai trouvé d'autres choses en faisant cette étude sur les annales. Je vois le nom Lucy Varga. Alors, où sont-elles? Ce n'était pas simplement une fraternité extraordinaire de deux hommes génies qui nous ont donné. C'était des
Marc
femmes.
Marc Bloch et Lucien Febvre.
Ce n'était pas simplement Marc Bloch et Lucien Febvre. Et puis, il y a des femmes autour d'elles. Quelle découverte.
Oui, et des femmes en grand nombre. Alors, vous avez cité le nom de Lucy Varga, qui est peut-être une des plus connues, parce que elle a signé un ou deux articles dans les annales avant la Seconde Guerre mondiale, dans les années 30, mais elle est une des rares à avoir signé un article dans cette revue.
Il n'y avait que deux articles. Une des premières était par Thérèse Schlaffer, une historienne de l'histoire économique formidable. Il y avait des comptes rendus, Marc Bloch, surtout, a écrit des comptes rendus. C'est intéressant que ces femmes ont très souvent, pas seulement parce que c'est un choix de Bloch, s'intéresser à l'histoire économique. Mm-hmm. Une des historiennes dont je me suis servi très souvent pour mes recherches dans le 16e siècle, il y avait un compte rendu, Yvonne Bézard, mm-hmm. un ouvrage formidable sur l'histoire économique du 16e siècle autour de Paris. Alors, on trouve les noms, elles ne sont pas centrales, mais elles sont là. Les femmes de Febvre et Bloch. Mm-hmm. On travaillait beaucoup. Suzanne Febvre et Suzanne Bloch, les mêmes prénoms. On travaillait avec leur mari. Ils ont lu leurs articles. Ils ont corrigé les preuves. Elle n'était pas centrale, mais elle était toujours là.
Oui, parce qu'elles font partie, Clive Plumosil et Anaïs Albert, elles font partie de cette génération de femmes qui, avec l'ouverture en particulier des concours d'enseignement aux femmes dans les années de la fin du 19e siècle et du début du 20e siècle, ont pu accéder à des postes qu'elles n'avaient pas auparavant, Clive Plumosil.
Oui, effectivement, cette place qu'elles ont, parce qu'elles ont quand même une place dans les coulisses des annales, et le fait, cette féminisation de l'enseignement supérieur et des professions dites d'élite au début du XXe siècle. Il y a les travaux de Juliette Rennes ou de Rebecca Rogers qui ont mis en lumière cette entrée des femmes par l'éducation et l'enseignement supérieur. Mais ce qui est intéressant ici, c'est de voir en quoi, alors même qu'elles font plus ou moins les mêmes études que les hommes, qu'elles gravitent dans les mêmes milieux, finalement leur travail et leur carrière ne sont pas du tout les mêmes.
Anaïs Albert.
Oui, et je rajouterais que ce qui est aussi intéressant, c'est qu'en fait leur carrière s'interrompt souvent pour cause de vie familiale. C'est-à-dire que, par exemple, Suzanne Fèvre, elle fait ses études à l'École normale supérieure de Sèvres, elle est agrégée d'histoire, elle commence une thèse doctorat qu'elle interrompt à la naissance de son premier enfant. Donc en fait, ces femmes, elles sont en quelque sorte rattrapées par le travail domestique, qui est une des choses qu'on voulait étudier aussi dans ce dossier, et elles vont continuer vraiment leurs tâches dans l'ombre de leur mari, en relisant, comme disait Nathalie Zemon-Davis, leurs épreuves, etc. Et elles ont aussi un rôle qui, à mon avis, est très important, c'est celui d'en fait d'entretenir la sociabilité intellectuelle de leur mari, puisqu'elles organisent des dîners, elles voyagent avec eux, et donc elles ont un rôle très important même pour les nourrir intellectuellement.
Alors il faut dire que cet article de 1992 que vous avez écrit donc pour une revue britannique, Nathalie Zemon-Davis, allait très loin dans la façon d'envisager justement la vie de chacune de ces contributrices ou contributrices cachées d'une certaine façon de la revue des Annales. Vous vous intéressez à la façon dont elles travaillent, dont elles sont justement les hôtesses dans des cadres universitaires des invités de leur mari. Vous vous intéressez aussi à leur relation d'amour entre femmes et hommes, en l'occurrence, et en l'occurrence Lucie Varga avec Lucien Fèvre, par exemple. Et vous expliquez aussi comment elles ont du mal, je ne sais pas si elles n'y pensent pas ou si elles ne peuvent pas y penser, d'une certaine façon, elles ont du mal à accéder à ce saint dessein qui est écrire pour la revue Les Annales, alors qu'elles en ont les capacités.
Elles ont dû chercher du travail ailleurs, elles ont enseigné quelquefois aux écoles normales. La seule ouverture qui m'a frappée, c'était celle qui a trouvé Germaine Hourillard. Germaine Hourillard, qui a commencé comme bibliothécaire à la Sorbonne, et puis a fait une thèse, et enfin une thèse...
Sur l'Empire byzantin.
Sur l'époque. Et puis, elle peut avoir un poste à l'école pratique des autres études. Alors là, il y avait une petite ouverture. Elle donne la section histoire et philologique. Et je trouve que ça, c'est intéressant. Plus tard, il y avait une autre femme qui était spécialiste, Marie-Louise Josette, qui était spécialiste extraordinaire de l'histoire et folklore des Irlandais, des Celtes. Et elle aussi a pu trouver. Alors là, il y avait une petite ouverture pour elle d'enseigner.
Oui, mais une ouverture, rappelons-le, qui peut être aussi une clôture tragique, puisque comme Marc Bloch a été assassiné pendant la Seconde Guerre mondiale, l'une d'entre elles se suicidera et l'autre mourra pendant l'occupation. Oui. Ce sont donc des périodes très difficiles.
Très, très tragiques, oui. Elle est vraie. Mais je trouve que c'est intéressant que les universités aient beaucoup plus dures et que là, quand même, je crois que c'était intéressant à voir qui étaient les directeurs à cette époque, qui étaient prêts à avoir des femmes parmi eux.
Et ce qui est intéressant dans votre travail aussi, dans cet article qui a été republié donc, et traduit, rappelons-le, dans la revue Tracé, revue de sciences humaines, le numéro 32, ce qui est intéressant, c'est que vous expliquez qu'elles ont des difficultés, elles n'ont pas la place qu'elles mériteraient, et que parfois, elles parviennent que dans d'autres pays, en comparaison de la France, elles ont cette place au même moment, dans les années 30, que ça soit en Allemagne, en Autriche, ou encore en Grande-Bretagne et aux États-Unis. Et que la France fait donc peut-être une exception.
Oui, mais il y avait des femmes comme Eileen Power, qui a pu avoir un poste à Londres, mais un vrai poste important, une médiéviste, amie de Marc Bloch. Mais attention, ce n'était pas noir et blanc. Et puis en Amérique, la plupart des femmes historiennes que moi je connaissais quand j'étais étudiante dans les années 40, elles enseignaient les grandes historiennes aux universités pour les femmes. Mmh. Alors peut-être ça c'est une différence entre la France et ailleurs.
Oui, Anaïs Albert, sur cette question de destination particulière dans l'université française et dans la recherche française des femmes par rapport à d'autres pays. Et ça vous a frappé aussi en tant qu'étudiante, j'imagine, quand vous lisiez cet article il y a quelques années de Nathalie Zamon-Davis.
Oui, je pense que effectivement, il y a une vraie différence. Après, Clyde Plumosil, comme moi, on appartient à une autre génération où nous, on a eu des femmes universitaires. Moi, ma thèse a été co-dirigée par une femme, Anne Marison, et qui était une femme de la d'une génération, voilà, au-dessus de moi. Donc aujourd'hui, il y a des femmes, même si elles restent, je pense que au poste de professeur aujourd'hui, il y a quand même encore une disproportion entre les hommes et les femmes. Mais pour notre génération, il y avait des modèles femmes et dans des universités qui étaient pour le coup mixtes.
Clyde Plumosil.
Je suis tout à fait d'accord avec ce que vient de dire Anaïs. Et ce qui était intéressant aussi dans l'article de Nathalie Zamon-Davis par rapport à ça, c'est que comment les trouver ces femmes? Parce que de fait, elles étaient déjà présentes, mais on s'aperçoit avec cet article qu'on a un portrait collectif en creux, en fait, des femmes des annales. Et vraiment, je tiens à souligner le travail des notes de bas de page sur lequel on s'est beaucoup interrogé avec Anaïs Albert lors de la traduction, en disant est-ce que on coupe l'appareil de notes de bas de page pour réserver la traduction au texte? Et en fait, on s'est rendu compte qu'il y avait un deuxième texte dans l'article, qui était celui des notes. Vous regarderez,
elles sont extraordinaires. C'est parce qu'elles, non seulement elles précisent ce que vous dites dans le corps du texte, mais elles apportent des visions supplémentaires d'une certaine façon.
C'est ça, vous regarderez, je fais de la pub pour le bouquin, mais si vous regardez page 183 et 185, vous avez deux notes de bas de page qui font l'équivalent du texte quasiment, mais qui permettent de montrer en fait le jeu de pistes auquel on doit se livrer quand on est historienne pour retrouver les femmes dans l'université. Donc par les annuaires, par les dédicaces, par tout un ensemble de paperasses grises qui ne sont pas les matériaux nobles qu'on a utilisés pour faire l'historiographie et qui en fait permettent de redonner une place à toutes ces femmes dans les grandes écoles historiques qui ont formé notre discipline.
Oui, c'est ça, une littérature grise qui permet de retracer la vie de ces chercheuses en creux d'une certaine façon qui, comme dans un iceberg, ne sont apparues qu'à certains moments de l'histoire de l'histoire et de l'historiographie qui ont ensuite pendant longtemps disparu. Nathalie Zamon-Davis.
C'est vrai, mais à leur époque, les gens le connaissaient. C'est simple, il n'est pas... Lucien Febvre a tourné vers Eugénie Droz pour être son éditeur. Il connaissait ces femmes. C'est simple qu'il ne les prenait pas, eux, pour importants. C'était un peu à côté d'eux. Les hommes ont pensé que c'est naturel. Et c'est assez répandu. En Amérique, mon collègue, à mon époque, mon collègue merveilleux, Lawrence Stone, travaillait toujours avec sa femme, elle était merveilleuse, mais toujours ses livres ont son nom. Dans cette histoire, en Amérique, il n'y a que Mary Beard et Charles Beard, au commencement du XXe siècle, où le nom de la femme apparaît. Et on a pensé que c'était naturel.
Oui, en France d'ailleurs, dans cette école des annales, moi je ne connais qu'un exemple où la femme ait été placée au même niveau que l'homme, c'est pour Pierre Chaunu,
Huguette
Chaunu, oui. Puisque quand il publie Séville ou l'Atlantique, donc entre 1955 et 1960, et immense travail de réflexion sur la conquête du Nouveau Monde par les Européens, eh bien le titre et l'adresse, c'est donc Huguette et Pierre Chaunu, Séville et l'Atlantique. C'est le seul exemple que je connaisse, mais il y en a peut-être d'autres, Nathalie Zamon-Davis.
Paul Prodel a beaucoup aidé son époux, mais je crois qu'à mon su, Fernand Braudel a mis son nom. Peut-être il a remercié sa femme dans la préface, dans le remerciement, mais c'est son nom qui paraît. C'est elle qui a appris de lire l'écriture difficile du XVIe siècle pour lui.
Oui, parce que ces femmes ne sont pas simplement, comme on pouvait l'imaginer, des dactylos ou des sténographes qui reprennent. Ce sont des personnes qui ont participé aux recherches de leur mari. Oui, c'est ce que vous nous expliquez, Nathalie Zamon-Davis. Elles ont été contributrices et elles ont aidé leur mari la plupart du temps.
C'est un travail intellectuel.
Voilà. Elles sont historiennes.
Oui, c'est parce qu'elles sont historiennes, justement. Donc, donc, on ne les a pas cantonnées non plus à un rôle subalterne, mais on ne les a pas fait monter sur le même podium que l'homme quand il fallait mettre en avant cette qualité d'historienne. Anaïs Albert.
Juste pour citer un passage de l'article, mais que je trouve très révélateur de votre démarche, Nathalie Zamon-Davis, vous dites que Suzanne Bidal-Bloch lui sert, à Marc Bloch, sa vie durant de secrétaire, d'assistante et de relectrice de tous ses manuscrits, rôle que Bloch n'a jamais reconnu de son vivant, mais que, jugé Lucien Febvre, il aurait salué d'une dédicace s'il avait survécu. Je trouve que tout est dans ce passage. C'est-à-dire, peut-être il l'aurait fait, et si il avait reconnu ce rôle, ça aurait été d'une dédicace.
Et puis, il y a cette particularité aussi qu'en 1992, ce qui n'était pas du tout le cas en France, peut-être, vous avez osé mettre en avant, comme d'ailleurs l'avait fait auparavant Peter Schoettler, les relations, disons, adultères d'un historien comme Lucien Febvre avec une de ses collaboratrices, en l'occurrence, Lucie Varga, pour pouvoir expliquer aussi la méconnaissance de cette personne de Lucie Varga, parce qu'évidemment, à un moment, Lucien Febvre doit rompre avec elle, et elle va rentrer dans une sorte d'anonymat ensuite, pendant un certain temps, avant de mourir pendant la Seconde Guerre mondiale.
Oui, c'est un danger. C'est un danger de cette vie parmi nous, et on doit faire attention, voilà.
À quoi on doit faire attention? À l'adultère,
oui,
on doit
faire attention. Il y avait le cas célèbre de Marie Curie, qui a dû souffrir après avoir reçu le prix Nobel à cause de son amour avec un collègue grand physicien.
Paul Langevin.
Oui, Langevin. Et puis, alors, il y a des histoires, mais c'est la vie. Et puis, il me semble que le livre de Lucien Febvre sur Marguerite de Navarre, où il parle de la duplicité, le problème de la doublesse, il y a un écho.
De sa propre vie.
De sa propre vie et peut-être des regrets. Il est peut-être des regrets.
Clive Plumosil.
Et je pense que c'est très important de mettre en avant cette dimension des relations amoureuses, sentimentales qui participent de l'organisation et de la production de ce travail intellectuel.
Mais parce reconnaissons que ça n'a pas été fait souvent et que souvent, dans l'école française en tout cas, on a toujours été réticent à cette mise en avant de la vie privée en considérant qu'il y avait comme une frontière étanche entre vie privée et vie publique des chercheurs.
Mais on est des cerveaux sans corps, ça c'est bien connu. Mais en fait, quand on est exclu des réseaux légitimes de travail comme les femmes à cette époque, il faut aller dans d'autres réseaux de sociabilité et ça passe aussi par les relations amoureuses. Puisqu'on ne les voit pas, elles ne sont pas collègues à part égale. Donc on ne va pas les retrouver sur les bancs d'université à côté de Marc Bloch et Lucien Febvre. En revanche, si on travaille par contre sur l'environnement amical, affectif de ces hommes, qui est aussi un vrai environnement de soutien à leur travail intellectuel, là on les retrouve et là on voit leur rôle qui, de périphérique, devient central en fait dans leur production.
Anaïs Albert.
Oui, puis il y a la question, je pense, économique, très nettement. C'est-à-dire que si Lucie Varga disparaît, c'est aussi parce qu'en fait, à travers Lucien Febvre, elle a accès à, tout simplement, à des ressources pour vivre, puisqu'il la paye pour faire des tâches pratiques pour lui, etc. Et après leur rupture, elle n'a plus de ressources économiques. Et donc, elle est très en difficulté économiquement. Et toutes ces femmes, elles existent en tant qu'intellectuelles dans le mariage, qui est aussi une cellule économique qui leur permet d'avoir un revenu et... Vu qu'elles n'ont pas accès à des positions universitaires, à des métiers, à des salaires, elles sont marginalisées aussi dans ce monde-là.
Alors, Camille Lefebvre, vous êtes historienne, vous êtes chargée de recherche au CNRS à l'Institut du Monde Africain, et vous appartenez au comité de rédaction de la revue Les Annales, qui, d'une certaine façon, dans l'article de Nathalie Zeman-Davis, est un peu pointée du doigt par cette fraternité supposée masculine et cette éviction des femmes de l'espace légitime de représentation que peut être une revue scientifique. Qu'est-ce que vous en pensez, Étienne Anaïm, dans ce numéro de Tracé, Revue de Sciences Humaines, numéro 32, répond d'une certaine façon sur les évolutions d'une revue comme Les Annales aujourd'hui, avec cette progression du nombre de femmes dans les articles et dans la représentation aussi du comité de rédaction. Qu'est-ce que vous en pensez, Camille Lefebvre?
Alors, tout d'abord, comme Étienne le montre dans son article, ce qu'on peut dire, c'est qu'il faut contextualiser cette question par rapport au monde académique en France à cette époque-là, qui reste le monde académique en France de l'entre-deux-guerres est un monde de fait très masculin, et les annales reflètent cette réalité. À l'exception de quelques champs marginaux comme l'ethnologie, par exemple, où certaines femmes importantes ont de la place, mais c'est aussi parce que ce sont des champs qui viennent de s'institutionnaliser, on a effectivement un monde très masculin. Ce qu'on peut dire, c'est que, comme Anaïs Albert l'a souligné, les choses ont beaucoup changé, même si on reste dans un monde académique où les positions de pouvoir sont majoritairement occupées par des hommes. Tu l'as évoqué, mais on peut dire que pour les professeurs d'université ou les directeurs de recherche, on est à 24% de femmes, donc ce qui reste assez faible.
Et dans la revue Les Annales elle-même, alors donc, est-ce que les progrès ont été accomplis depuis cette période visiblement très difficile des années 30 pour les femmes qui auraient voulu y écrire?
Alors, pour les femmes qui ont voulu écrire et pour le comité de rédaction, les choses ont effectivement changé. Le comité reste majoritairement masculin, mais on est quatre femmes, hein, Antonella Romano, Anne Simonin, Vanessa Caru et moi. Mais ce qu'on peut dire, c'est que dans la répartition de la parole et dans la place accordée aux femmes, notamment au moment du du comité de rédaction, on a vraiment un espace de parole important en fonction de nos spécialités, mais aussi parce qu'on est reconnu dans notre travail. Donc ce que je dirais, c'est que la place des hommes reste majoritaire aux annales, mais de fait, comme dans les positions de pouvoir dans le monde de l'université en France. Après, au niveau des articles, il y a un vrai effort qui est fait, hein, on peut dire depuis une dizaine d'années, pour publier le plus grand nombre d'articles de femmes.
Et d'ailleurs, c'est très intéressant parce que dans l'article que livre pour cette revue Tracé Étienne Anheim, le directeur de la rédaction de la revue Les Annales, il note que, alors, c'est un processus un peu compliqué, le processus des revues dites de rang A, donc de très grande qualité au niveau international, comme le sont Les Annales. C'est un processus où on lit les articles, on reçoit les articles, on en commande parfois, et ensuite ils sont lus par les pairs et ils sont même anonymisés, d'après ce que j'ai cru comprendre, et que cette anonymisation ne joue pas en défaveur des femmes, mais plutôt en leur faveur. Vous pouvez nous expliquer ce phénomène un peu particulier. Donc, vous recevez ou vous commandez des articles, et ensuite, des pairs, donc des gens qui sont susceptibles de pouvoir juger au bon niveau la qualité de ces articles, les lisent sans savoir qui les a écrits, c'est cela ?
Alors, ce qu'explique Étienne par rapport au travail du comité de rédaction de la revue, c'est que globalement, on reçoit plus d'articles d'hommes que d'articles de femmes, mais qu'ensuite, quand on les évalue et qu'ils ont été anonymisés, globalement, les articles de femmes ont plus de chances de passer. Donc, c'est anonymisé, mais c'est simplement que leur qualité est proportionnellement peut-être meilleure.
Supérieure.
Donc, on voit ça aussi au niveau des soumissions spontanées. On a très peu de soumissions spontanées de femmes. C'est-à-dire que les femmes ne se sentent pas la légitimité d'envoyer directement un article aux annales, mais donc on a plus tendance à solliciter des articles de femmes. Mais au niveau de l'acceptation, on a plus d'articles de femmes qui sont acceptés.
Ça, c'est extrêmement intéressant. Qu'est-ce que vous en pensez, Claire Plumeuzil, Anaïs Albert et Nathalie Zeman-Davis?
Ce que met en lumière Étienne Anheim dans son texte, et qui a été aussi discuté à d'autres niveaux dans les processus de sélection dans les universités, les grandes écoles, c'est la question de l'autocensure féminine. C'est-à-dire que pour candidater ou pour proposer un texte, les femmes ont tendance à plus se censurer que les hommes, se sentir moins légitimes certes, mais aussi du coup plus travailler leur position et leur proposition. Donc ça aboutit à un nombre moindre d'articles de candidature, mais en revanche, souvent, c'est plus retenu, puisqu'il y a eu un travail, il y a une réflexivité du fait de ce manque de légitimité qui fait gagner en profondeur scientifique.
Nathalie Zeman-Davis.
Je suis d'accord avec vous, c'est Clyde. Et je crois qu'il y a une différence. Il y a quelques décennies, je crois qu'il y aura moins de femmes qui auraient offert leurs articles. Pas seulement parce qu'il y a moins de femmes avec un doctorat en histoire, mais à cette époque, elles n'osaient moins.
Oui.
Maintenant, je crois que c'est différent. Avec le soutien parmi les femmes, les réseaux, femmes ensemble. Mais les femmes donnent un soutien aux autres femmes. Essayez l'anal. Va voir les annales. Et puis, comme Claire a dit, on travaille beaucoup. Peut-être ça, c'est un légat de notre situation, qu'on doit être deux fois mieux que
les hommes.
Et je crois que c'est un peu, que ça a changé à travers les décennies.
Oui, Anaïs Albert.
Oui, je suis d'accord. Enfin, je pense que c'est un effet de la socialisation féminine aussi. Hein. Enfin, il y a des sociologues qui ont montré pourquoi les filles sont meilleures à l'école, réussissent mieux aussi, parce qu'elles sont, Enfin, ce qui peut être un désavantage dans d'autres circonstances sociales est un avantage, c'est-à-dire qu'elles sont bien dressées. Elles sont bien dressées, elles travaillent beaucoup, elles sont plus sensibles.
Il faut bien entendre ce que vous venez de dire.
Oui, non, pardon. Elles sont. On parle de dressage au sens de manière de contraindre un certain nombre de pulsions, mais du coup aussi d'une manière. Enfin, c'est pour ça que les filles réussissent mieux à l'école dans la scolarisation. Et je pense que cette question de l'anonymisation, elle est essentielle. Et d'ailleurs, dans la lutte des discriminations contre les discriminations en général, l'idée du CV anonyme, par exemple, pour essayer de lutter contre les discriminations à l'embauche, on a prouvé que ça faisait baisser les discriminations à l'embauche. Donc, si celui qui évalue l'article ne connaît pas le sexe de l'auteur, il ne peut pas le lire en fonction de ses propres préconçus. Et donc, il est obligé, en quelque sorte, de l'évaluer sur le fond et sur la qualité.
Camille Lefebvre.
Je pense qu'on a encore beaucoup de chemin à faire. Je pense qu'effectivement, les choses ont beaucoup changé, mais je pense qu'on peut encore énormément avancer. Je pense qu'il faut faire taire en soi le sentiment d'imposture. Et je pense qu'il
faut
vraiment...
Et vous pensez qu'il est plus fréquemment mise en œuvre par des femmes que par des hommes.
Je
pose la question.
Il faut s'autoriser à envoyer des articles aux annales, il faut s'autoriser à faire des HDR, à candidater aussi à des programmes...
Des habilitations à diriger des recherches.
Voilà, et candidater à des programmes européens type ERC ou aux ANR, et aussi accepter d'avoir des positions de pouvoir, parce que c'est aussi en ayant des femmes dans ces positions qu'on pourra... encore plus faire évoluer le monde académique.
Nathalie Zemon-Davis.
J'avais une question à vous poser, Gabrielle Lefebvre. J'avais l'impression, quand nous avons commencé, Michel Perrault, moi-même, et Joan Scott et d'autres, l'étude d'histoire des femmes et de genre, que les premières générations aux annales, à cette époque, soit des années 70, avaient une attitude plutôt marxisant, post-marxisant, que moi-même je l'avais, mais que vraiment ce n'était pas un sujet. J'avais un débat très souvent avec mon ami Edward Thompson sur la même question. Et puis, j'avais l'impression, mais là j'ai vu une transformation, qu'ils ont pensé, tiens, les femmes sont un groupe important comme dans l'histoire, comme les classes. Et puis, vers quoi, les années 90, plus tard, ils étaient prêts à recevoir. Est-ce que je me trompe là ou est-ce que j'ai raison?
Vous voulez dire dans la revue?
Oui.
Dans les annales qu'ils ont accepté. Bon, ils ont pensé, bon, c'est vraiment un sujet. Même au commencement, mon Azouf n'était pas sûr que c'était vraiment un sujet en lui-même.
En soi.
Mais il a changé et puis maintenant, c'est bien accepté. C'est parmi des articles très importants qui paraissent.
Étienne, dans l'article, montre aussi comment c'est un sujet effectivement qui a été marginal pendant longtemps et qui tout d'un coup est devenu un sujet qu'on s'est mis à publier dans les annales. Et maintenant, effectivement, c'est un sujet qui intéresse.
Parce qu'il y a aussi multiplication des champs. Ça n'est pas que l'histoire des femmes, c'est devenu l'histoire du genre, mais aussi on a travaillé sur l'histoire des sexualités, par exemple, Clyde Plumosil, comme vous d'ailleurs, et que tous ces nouveaux champs, d'une certaine façon, se liant à la question de l'histoire sociale, à la question de l'histoire culturelle, à la question de l'histoire politique, ont multiplié les possibilités de se rapprocher de ces questions qui auparavant étaient un petit peu marginalisées.
Et ce qui est très intéressant, c'est que en fait, on voit l'effet de résonance entre des préoccupations intellectuelles et des transformations du monde universitaire. Parce que ce qui est particulièrement frappant dans l'article d'Étienne Anaïm, en dialogue avec celui de Nathalie Zemon-Davis, c'est à quel point le genre est une sorte de méthodologie traversière. C'est-à-dire que, à partir du moment où on pose la question du genre dans la revue, on s'intéresse aussi à la question du genre dans la production scientifique de cette revue. Et que finalement, la transformation des équilibres de genre dans la revue entraîne une transformation aussi des préoccupations de genre dans les articles produits, commandés, etc. Et donc, c'est pas mal. Il procède par observatoire. Il fait d'abord le genre dans le personnel des annales, après les places occupées et ensuite les articles reçus et les thématiques mobilisées. Et c'est intéressant ce décloisonnement en fait qui est opéré par la question du genre, qui est une question en fait transversale. Pas besoin que ce soit un domaine de spécialité, mais qui permet d'interroger des équilibres à tous les niveaux. Et comment ces derniers sont entrelacés?
Oui, c'est d'ailleurs très intéressant, Nathalie Zemon-Davis, que de voir que, au moment où vous publiez cet article dans une revue anglaise en 1992, la question du genre est à peine arrivée dans le débat et la discussion en France. Mmh. Elle est souvent d'ailleurs considérée à ce moment-là comme étant une importation pure et simple de l'université américaine. Et qu'il faut, évidemment, comme toutes les questions américaines, mettre à la porte de l'université française parce que c'est une invention du diable d'une certaine façon, et qu'il y aura un temps d'acclimatation toutes les années 90 et le début des années 2000 pour qu'enfin on considère que c'est opératoire, que cela peut aider les historiennes et les historiens à changer de focale, à changer de regard.
Oui, dans une façon très utile. C'est vrai, et il est vrai que quelquefois les Américains et les Américaines ont un peu poussé leur interprétation. Ce n'était pas seulement l'attitude des Français contre nous. En France, j'ai été le témoin au salon de Michel Perrault au Paris 7, où nous avons rencontré les visiteurs, les Françaises, pour parler de l'histoire du genre. Et un point tournant a été la collaboration avec Georges Duby. Je trouve que cette collaboration est très importante pour les femmes, quand on peut trouver un homme comme lui.
Oui, c'est-à-dire
pour
que Georges Duby a co-dirigé avec Michel Perrault une histoire des femmes.
Pour les volumes de l'histoire des femmes. Et soit à donner des exemples des hommes qui ont un peu mis leurs femmes ou les femmes avec lesquelles ils travaillaient. À part, il y a aussi des hommes très importants qui patronnaient des femmes, qui aidaient leur carrière. Et Georges Duby était un grand exemple. Ce qu'il a fait avec Michel Perrault pour l'histoire des femmes a changé la situation en France.
Et donc a permis l'arrivée de ces questions d'histoire des femmes d'abord, d'histoire du genre ensuite, dans le débat universitaire, oui. Et puis ensuite rentrer dans le débat public aussi, oui. Parce que c'est aussi oui. ce lien entre la recherche et la société qui est important, oui. Nathalie oui. Zemon Davis. Oui. Oui.
Ces couples, je reviens, je l'ai vu aussi déjà aux années 20-30 pour la grande médiéviste anglaise Eileen Power. C'est Tawney, le grand historien économique à l'Université de Londres, qui a donné une occasion à Eileen Power pour faire sa carrière. Encore ce soutien, alors il nous faut travailler ensemble.
Et ce travail ensemble, quand vous regardez depuis, vous qui êtes historienne de la France et qui avez travaillé sur le XVIe siècle français depuis aussi longtemps, Nathalie Zemon Davis, quand vous regardez vos collègues, quand vous regardez de loin, en revenant en France de temps en temps, l'évolution des préoccupations de genre dans la société française et dans l'université française, vous avez l'impression que ça a beaucoup progressé depuis.
Oh oui, absolument. Il y a le travail formidable ici. Des articles excellents en tracé, mais aussi dans les annales. Il y a beaucoup plus de choses qu'on peut faire au Collège de France où on vient de perdre la merveilleuse Françoise Héritier.
Rappelons que Françoise Héritier disait, quand je suis arrivé au Collège de France, on se réunissait entre hommes et femmes et elle était généralement la seule femme. Et elle disait, on se tournait vers moi en disant, qui va prendre des notes? Oui. C'était quand même aussi, elle était professeure au Collège de France comme tous les autres collègues étaient mais autour ça, d'elle. Et on lui demandait de prendre des notes.
Mais c'est un peu mieux que qui va prendre, faire le thé. Les notes sont un peu mieux.
C'est un peu mieux, oui, que de demander qui va faire le thé. Anaïs Albert, sur cette évolution, vous la sentez aussi en tant que jeune historienne dans la société française, c'est-à-dire que ces préoccupations qui ont été en partie combattues quand même ont pris plus de place désormais et ne sont plus remises en cause, en tous les cas, dans la société française aujourd'hui, dans l'université française.
Oui, dans l'université, dans la société,
dans la société c'est
tout à fait
différent.
Autre chose. Mais dans l'université française, je dirais que oui, il y a une préoccupation d'histoire du genre qui peut être nette, qui est alors pas dans tous les espaces de l'université non plus, qui peut aussi être virulemment combattu. Il faut, je pense, encore le dire. Enfin, c'est pas accepté par tous, par toutes. Et moi, je dirais surtout qu'il y a souvent une acception assez lâche de l'histoire du genre, c'est-à-dire une acception très descriptive. On dit qu'il y a des femmes, des hommes. La question du genre profondément, c'est-à-dire qu'il y a la question du pouvoir, qui est pas tout à fait une question descriptive de répartition entre les sexes. Je pense que elle, qui est beaucoup plus subversive et critique, reste encore assez souvent discuté.
Clyde Plumosil.
Je pense que par rapport à ce que dit Anaïs, c'est notamment le fait, le nombre des recrutements des postes à l'université profilés sur les questions de genre et de femmes, il y en a très très peu. On a une chaire à Paris 7 qui a été créée par Michel Perrault, on en a une à Toulouse, il y en a une à Angers grâce à Christine Barre. Mais voilà, c'est dire en fait, trois chaires sur l'histoire des femmes et du genre. Donc, et le grand problème, c'est qu'on l'accepte de plus en plus comme discipline, voire comme débat, mais tant qu'elle reste cloisonnée, c'est-à-dire que les historiennes et les historiens du genre, la sexualité, la masculinité dialoguent avec d'autres champs de la discipline historique, l'histoire politique, l'histoire sociale dans son ensemble, l'histoire économique. Mais l'histoire économique, l'histoire politique, etc., à l'inverse, ne dialoguent pas nécessairement avec la question du genre. Donc il y a ce couple à faire, là, je pense, encore.
Camille Lefebvre.
Pour rebondir sur ce que vous avez dit à propos de Françoise Héritier, moi, quand je suis rentrée aux annales, des collègues, en dehors du comité, m'ont dit « Ah, mais tu vas faire le fauné pour quel vieux ?» Donc, on n'est pas...
Des noms.
ce que je peux dire aussi, c'est qu'on a beaucoup parlé de la question du genre, mais le monde académique aussi reflète très peu la société française dans sa diversité sociologique et dans sa diversité en général. Et là, à mon avis, il y a aussi énormément à faire aujourd'hui.
Oui, effectivement, pour que le travail de la recherche ressemble plus à la société dans laquelle nous vivons, on est tous et toutes d'accord sur cette question-là. Puisque nous parlions donc des annales, le dernier numéro des annales parle de quoi? Puisque nous avons parlé du numéro de tracé, est-ce que vous le savez, Camille Lefebvre?
Oh, j'ai un trou tout d'un coup. Je sais que le prochain va parler de la question de la musique et des arts. Et donc, voilà, il va sortir sous peu. Il est en fabrication.
Et donc, déplacer les frontières du travail dans lequel on trouve un dossier coordonné par Anaïs Albert, Clyde Plumosil et Sylvain Ville de la revue Tracé, revue des sciences humaines numéro 32, dans lequel on trouve justement à la fois votre article éminemment traduit, très bien traduit, il faut le rappeler en l'occurrence, par Christelle Rabier, donc qui est une chercheuse aussi.
Maîtresse de conférence à l'EHESS.
Voilà, absolument, qu'il faut saluer pour son travail de traduction de l'anglais des femmes et du monde des annales, avec également votre présentation Clyde Plumosil et Anaïs Albert, ainsi que l'article signé par Étienne Anaïm, le directeur de la rédaction de la revue des annales. C'est donc dans Tracé, revue de sciences humaines numéro 32. Merci à toutes d'être venues à la Fabrique de l'Histoire.
Merci beaucoup.
Et nous retrouvons, comme tous les mois, Amélie Meffre. Bonjour Amélie.
Bonjour.
Pour votre chronique Un saut dans la loi, dans laquelle vous revenez sur une disposition législative qui permet de mieux comprendre des débats d'aujourd'hui. Le 27 novembre, l'Union européenne a décidé de renouveler pour 5 ans la licence d'exploitation du glyphosate. La France a voté contre. Emmanuel Macron a demandé à la Commission européenne de faire des propositions pour revoir les modes d'évaluation des substances chimiques. C'est l'occasion pour vous de revenir sur la loi du 12 juillet 1916. En pleine Première Guerre mondiale, qui va notamment encadrer l'usage des arsenicaux dans l'agriculture.
Et oui, en fait, je vous avais déjà parlé de cette loi qui était particulièrement répressive pour l'usage des stupéfiants, mais elle va concerner bien d'autres substances vénéneuses et notamment les composés arsenicaux dont l'usage agricole s'intensifie pour combattre les parasites. Ces derniers, en fait, pullulent à la fin du 19e siècle, alors que l'agriculture s'intensifie et que les échanges commerciaux internationaux se développent. Le phylloxéra, qui ravage le vignoble français, en est un exemple criant. Face à ces ennemis de la culture, comme on les nomme alors, la lutte chimique va peu à peu se généraliser avec l'emploi croissant de dérivés de l'arsenic, parfois encouragés par les autorités. Or, ceci va soulever une série de controverses dans la mesure où l'usage de ces substances dans l'agriculture est interdit depuis l'ordonnance du 29 octobre 1846. On assiste alors à une bataille entre les partisans et les adversaires des arsenicaux. Les uns prônent un assouplissement de la loi pour utiliser ces pesticides et faire prospérer l'agriculture française. Les autres exigent des garanties contre leur toxicité. Et l'État, au milieu, va tenter de composer entre intérêt économique et santé publique.
Et donc, j'imagine que des communications contradictoires vont se succéder sur ce sujet.
Et oui. Ainsi, en 1888, un rapport de M. Grosjean, inspecteur de l'enseignement agricole, préconise d'utiliser des arsenicaux contre un coléoptère qui attaque les cultures du Nord et du Pas-de-Calais. Il vante les mérites de ces pesticides qui ont fait leur preuve d'efficacité, notamment en Amérique, face aux doryphores. Son rapport est publié dans le bulletin du ministère de l'Agriculture, bien que cet usage soit interdit. En fait, la situation est pour le moins paradoxale, alors que l'emploi des arsenicaux se déploie dans la viticulture en toute illégalité, il est en quelque sorte encouragé par les autorités. On s'inquiète tout de même des risques d'empoisonnement collectif, comme ce fut le cas hier, en 1887, où des vins contaminés intoxiquèrent plus de 400 personnes.
Tout de même.
Oui. D'autres cas existent. Redoutant des accidents face à la circulation sans aucun contrôle de ces toxiques, des préfets saisissent des conseils d'hygiène et de salubrité publique en 1908 et en 1911. Au même moment, des médecins tirent la sonnette d'alarme, soulignant la possibilité pour ces résidus d'arsenic de passer dans les vins, les fruits et les légumes et d'empoisonner les consommateurs. Et c'est le cas du professeur Paul Cazeneuve, éminent membre de l'Académie de médecine, qui fut député puis sénateur du Rhône, qui mène campagne auprès des viticulteurs et des personnalités politiques sur les dangers de ces substances. S'il évoque les risques d'empoisonnement pour les consommateurs, eh bien il se soucie aussi des utilisateurs. Comme le rapporte Rémi Fourche dans sa thèse d'histoire sur la protection phytosanitaire dans l'agriculture, en 1913, il s'insurge que l'on trouve tout simple qu'un brave vigneron manipule de l'arséniate de soude et des sels de plomb, se souille les mains, les vêtements, au milieu de ses enfants et du personnel de la maison, sans réglementer en quoi que ce soit cet usage.
Alors j'imagine que l'Académie de médecine va débattre de ces sujets.
Oui, elle débat et puis elle préconise une série de mesures qui seront en partie reprises dans le décret du 14 septembre 1916, lequel fait donc suite au vote de la loi du 12 juillet sur les substances vénéneuses. En fait, le gouvernement attend des propositions pour lui permettre de légaliser l'utilisation des arsenicaux dans l'agriculture. Alors ce décret va classer les substances vénéneuses en trois catégories. Le tableau A regroupe le plus grand nombre, dont celles destinées à l'agriculture ou à la médecine, le B les stupéfiants et le C les moins toxiques. Parmi la première liste, on retrouve donc les composés arsenicaux utilisés en agriculture pour combattre les nuisibles. Alors le texte innove en légalisant l'usage de certains tout en encadrant leur utilisation. Une série de règles est édictée. Interdiction des arsenicaux dans les cultures maraîchères et fourragères, des composés solubles considérés comme plus dangereux, réglementation des mélanges, des quantités comme des périodes d'emploi, obligation de stocker les produits dans des locaux fermés, de se protéger lors des manipulations.
En fait, on légalise des produits que l'on sait toxiques, mais on encadre strictement leur usage.
Et oui, et on retrouve la logique pour le moins ambiguë de cette politique dans le rapport adressé au président de la République, Raymond Poincaré, par les ministres de la Justice, de l'Agriculture, de l'Intérieur et des Finances. Il justifie le décret du 14 septembre 1916 et l'autorisation des pesticides en ces termes. Tant que l'on ne disposera pas de méthodes plus inoffensives de destruction des insectes parasites, il a paru d'un intérêt économique de premier ordre d'autoriser l'usage des arsenicaux en agriculture. Il précise tout de même qu'il faut imposer toutes les garanties nécessaires à la sauvegarde de la santé publique. Quoi qu'il en soit, les règles édictées en 1916 pour l'emploi de ces pesticides ont été peu respectées. Des dérogations se sont succédées pendant plusieurs années. Et comme me le soulignait Nathalie Jaz, historienne des sciences, ces textes de 1916 sont importants dans la mesure où ils fondent la législation contemporaine sur les toxiques employés dans l'agriculture. En fait, ils montrent la position ambiguë de l'État, qui cherche à protéger la santé publique en produisant un système de régulation et en même temps tente de préserver les intérêts de l'agriculture en fermant les yeux sur leur contournement de ladite législation, voire en favorisant ces contournements.
Et merci beaucoup Amélie Meffre, on vous retrouvera le mois prochain. En attendant, on peut retrouver la thèse d'histoire de Rémi Fourche sur la protection phytosanitaire dans l'agriculture française sur le site de l'Université Lumière de Lyon 2. On mettra le lien sur le site de la Fabrique de l'Histoire et consulter également les articles de Nathalie Jaz sur le site de l'INRA. Merci et au mois prochain. Et pour terminer cette émission du vendredi, comme tous les vendredis, nous vous proposons une nouvelle rubrique depuis la rentrée. C'était à la une avec le site de presse de la Bibliothèque nationale de France, Retro News, une lecture faite d'un grand article de presse de ces deux derniers siècles. Aujourd'hui, Laurent Lederer.
J'accuse. J'accuse les bureaux de la guerre d'avoir mené dans la presse une campagne abominable.
Le 26 avril prochain,
en portant ces accusations, je n'ignore pas que je me mets sous le coup des articles 30 et 31 de la loi sur la presse du 29 juillet 1881. Et c'est volontairement que je m'expose.
C'était à la une.
Le matin. 29 septembre 1914. Elle est debout, mais pantelante. Nous suivions la même route que le jour où nous la vîmes entière. Guettant le talus d'où elle se montre aux voyageurs, nous avancions, la tête tendue comme à la portière d'un wagon, lorsqu'en marche on cherche à reconnaître un visage. Avait-elle conservé le sien? La voilà, derrière une voilette de brume. Serait-elle donc encore? Les premières maisons de Reims nous la cachent. Nous arrivons au parvis. Les poutres brûlées, les cloches sont venues s'abîmer sur le sol. Ce n'est plus elle, ce n'est que son apparence. C'est un soldat que l'on aurait jugé de loin sur sa silhouette toujours haute, mais qui, une fois approché, ouvrant sa capote, vous montrerait sa poitrine déchirée. Les pierres se détachent d'elle, une maladie la désagrège, une horrible main l'a écorchée vive. Les photographies ne vous diront pas son état, les photographies ne vous donnent pas le teint du mort. Vous ne pourrez réellement pleurer que devant elle, quand vous y viendrez en pèlerinage. Elle est ouverte, il n'y a plus de porte. Nous pénétrons en retardant le pas. Nous sommes déjà au milieu de la grande nef, quand nous nous apercevons avoir le chapeau sur la tête. L'instinct qui fait qu'on se découvre au seuil de toute église n'a pas parlé. Nous ne rentrions plus dans une église. Il y a bien encore les voûtes, les piliers, la carcasse, mais les voûtes n'ont plus de toiture et laissent passer le jour par de nombreux petits trous. Les piliers, à cause de la paille salie et brûlée dans laquelle ils finissent, semblent plutôt les poutres d'un relais. La carcasse, où coula le réseau de plomb des vitraux, n'est plus qu'une muraille souillée, où l'on ne s'appuie pas. Nous prenons l'escalier d'une tour. Les deux premières marches ont sauté. Tout en le montant, notre esprit revoit les blessures extérieures. Nous devons être au niveau de ce fronton où Jésus mourait avec un regard si magnanime. Le fronton se détache maintenant, tel une patte feuilletée, et Jésus n'a plus qu'une partie de sa joue gauche. Plus haut est cette balustrade que dans leur imagination les artisans du Moyen-Âge ont dû destiner aux anges les plus roses. La balustrade s'en va par colonnes. Les anges n'oseront plus s'y accouder. Et nous montons, sans pouvoir chasser de nous cette impression que nous tournons dans quelque chose qui se fond tout autour. Nous arrivons à la lumière. Sommes-nous chez un plombier ? Du plomb en lingots biscornus. La toiture disparue laisse les voûtes à nu. La cathédrale est un corps ouvert par le chirurgien et dont on surprendrait les secrets. Nous ne sommes plus sur un monument. Nous marchons dans une ville retournée par le volcan. Sénèque, à Pompéi, n'eut pas plus de difficulté à placer le pied. Les chimères, les arcs-boutants, les gargouilles, les colonnades, tout est l'un sur l'autre, mêlé, haché, désespérant. Nous redescendons. Nous sommes près du cœur. De là, nous regardons la rosace, l'ancienne rosace. Il ne lui reste plus qu'un tiers de ses feux profonds et chauds. Elle créait dans la grande nef une atmosphère de prière et de contrition. Et le secret des verriers est perdu. En regardant ainsi, nous vîmes tomber des gouttes d'eau de la voûte trouée. Il ne pleuvait pas. Nous nous frottons les yeux, il tombait des gouttes d'eau. C'était probablement d'une pluie récente, mais pour nous ainsi que pour tous ceux qui se seraient trouvés à notre côté, ce n'était pas la pluie. C'était la cathédrale pleurant sur elle-même. Le canon continue de jeter sa foudre dans la ville. Les coups se déchirent plus violemment qu'au début. Que cela peut-il faire maintenant ? La cathédrale de Reims n'est plus qu'une plaie. Albert Londres.
Comme d'habitude, cette émission a été préparée par Francesca Fossati et Aurélie Marseille. À la technique ce matin, Juliette Delperou. À la réalisation, Renaud Delmar et Marie-Laure Ciboulet. Demain, l'histoire continue sur France Culture avec à 10h Concordance des temps de Jean-Noël Jeannonet. Le thème de demain, les Tchèques et les Slovaques aux sources d'un nationalisme avec Antoine Marès. Quant à nous, la semaine prochaine, nous traiterons de la question des archives, qu'elles soient départementales, associatives, nationales ou autres.